Ce matin, je vous invite à lire avec moi ou à écouter, suivant ce que vous voudrez, le chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens. Et donc, nous arrêterons sur ce chapitre. Voilà, 4. On verra l'image après. Alors, je lis dans la Bible du Semeur. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, et cependant, jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendu manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture « J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les réalités invisibles demeurent éternellement. Un porteur d'eau avait deux grands récipients qu'il portait au bout d'une tige qu'il faisait reposer sur son cou. Chaque jour, il allait et venait de la rivière vers la maison de son maître. Seulement, l'un de ses pots était fêlé et ne conservait que la moitié de son eau, alors que l'autre était parfaitement étanche et ne perdait aucune goutte d'eau. Ce récipient parfaitement étanche était très fier de pouvoir accomplir parfaitement sa tâche. Le pauvre récipient endommagé, quant à lui, était bien triste et avait honte de ne pouvoir en faire autant et de n'accomplir sa tâche qu'à moitié. Après 2 années de service, le récipient endommagé vivait de plus en plus mal ses échecs quotidiens. Sur le trajet qui le menait de la rivière à son lieu de service, alors qu'il était, comme d'habitude, en train de perdre une partie de son eau qui se répandait à terre, le pont endommagé dit au porteur « J'ai honte de moi-même, et je voudrais te demander pardon. »« Pardon et pourquoi ?» lui demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« Ces deux dernières années, je n'ai pu te donner que la moitié de mon eau. Le reste s'est répandu à terre en raison de la fêlure sur mon côté. » À cause de moi, tes efforts n'ont pas été pleinement récompensés. » Le porteur d'eau était désolé d'entendre cela et lui répondit « Comme nous sommes en chemin vers la maison de mon maître, j'aimerais que tu regardes bien les jolies fleurs qui jonchent le sol. » Alors le récipient endommagé remarqua en effet des fleurs le long du chemin. Cela lui mit un peu de baume au cœur. Mais arrivé à la maison du maître, il avait de nouveau perdu la moitié de son eau et se sentait comme d'habitude terriblement confus. Le porteur d'eau lui dit alors « Est-ce que tu as remarqué que les fleurs ne poussent que de ton côté et non pas de l'autre côté du chemin ? Ça c'est parce que je savais que tu perdais de l'eau et j'en ai profité pour planter des graines le long du chemin, mais seulement de ton côté. Durant ces deux dernières années, j'ai pu régulièrement couper des fleurs pour décorer la maison du maître. » parce que l'eau que tu perdais les arrosait chaque jour. Si tu n'avais pas été toi-même, mon maître n'aurait jamais eu autant de fleurs sur sa table. Verset 7 de notre lecture. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que la puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et pas à nous. Alors, je vous avais dit, il y a deux jours, qu'il y a pas mal d'images que Paul utilise hein, pour développer ce thème de la puissance dans la faiblesse. Après l'image du cortège triomphal, ici nous trouvons une autre image, mais une image qui n'est pas nouvelle. On la retrouve dans l'Antiquité, ça a été retrouvé notamment dans les documents de Qumran, hein, qui ont été retrouvés au siècle dernier, qui nous ont beaucoup appris sur le contexte de l'époque où certains écrits bibliques ont été rédigés. Notamment au 1er siècle, et aussi dans l'Antiquité, c'est une image qui est souvent reprise, également dans l'Ancien Testament, puisque les prophètes, à la fois le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, vont utiliser cette image pour dire que le vase d'argile que nous sommes, façonné par le potier, je pense à ceux qui connaissent un peu le texte, l'auront un peu à l'esprit, le potier qui représente Dieu, eh bien ce vase d'argile que nous sommes dépend entièrement de Dieu, du potier. C'est le potier qui donne sa forme, et le potier c'est Dieu. Paul va aussi reprendre cette image dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, dans les versets 19 à 24, pour enseigner sur la souveraineté de Dieu qui, comme le potier, fait ce qu'il veut avec l'argile que nous sommes. Donc, ce n'est pas la première fois que Paul ici utilise cette image qui, de manière générale, insiste sur la distinction entre Dieu, le Créateur Tout-Puissant, et la créature limitée que nous sommes. C'est aussi, concernant le vase d'argile, une image pour parler du service, puisqu'il s'agit, le vase d'argile, c'était le vase courant, commun, utilisé pour les tâches domestiques. Donc, une image qui nous parle à la fois d'une fragilité, d'une vulnérabilité, d'un esprit de service, mais ici, c'est surtout cette fragilité que l'apôtre Paul va chercher à valoriser au travers de cette image. Cette fragilité que, justement, on lui reproche. Et on a eu l'occasion de le dire au cours des jours passés. Alors, est-ce bien raisonnable, Paul, de mettre en avant ainsi cette fragilité ? Pourquoi valoriser la vulnérabilité ? Ça n'est pas très vendeur, surtout pas à Corinthe, où on aime plutôt ce qui brille, ce qui impressionne, où on a très à cœur, on l'a vu, le statut social. Pourtant, Paul va le faire pour une raison simple, parce que cette fragilité met d'autant plus en lumière la puissance de l'Évangile. Car le trésor dans ces vases d'argile, c'est l'Évangile. Un Évangile que l'apôtre Paul va résumer d'abord en quatre mots. Et vous les avez ici, nous proclamons que Jésus-Christ, premier mot, et, deuxième mot, le, troisième mot, c'est Jésus-Christ est le Seigneur. Ça, c'est pour le contenu. Et puis, un peu après, au verset 6, il nous dit comment cet évangile l'a rejoint personnellement. Parce que cet évangile, ce n'est pas une simple phrase, une confession, une connaissance. Cet évangile, c'est quelque chose de vivant, qui veut et qui cherche à établir une relation personnelle entre justement le Créateur, on pourrait dire le potier, et la créature, le vase d'argile que nous sommes. Et pour nous en parler, l'apôtre Paul va faire référence à une parole de l'Écriture, il fait référence ici à la création, quand Dieu a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, et cette même lumière a aussi brillé dans son cœur, c'est ce qu'il dit ici, pour faire resplendir la connaissance de Dieu. Et on trouve finalement ici l'expérience de Saul, parce qu'avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul. Saul sur le chemin de Damas, quand il a été terrassé, là c'est vraiment l'attitude de celui qui tombe, qui est renversé, hein, qui est dans une position d'humilité, quand il a été terrassé, et que le ressuscité s'est révélé personnellement à lui dans une lumière venant du ciel, alors que lui finalement, Saul à ce moment-là, il allait faire quoi? Il allait persécuter les chrétiens à Damas. Ce qui caractérise la foi chrétienne, parmi toutes les religions, c'est justement que Dieu vient habiter en nous par son esprit. Nous qui sommes limités et vulnérables, comme un vase d'argile, pour y manifester sa puissance. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouverez nulle part ailleurs. Cette dimension de la relation tellement personnelle et intime que Dieu lui-même vient habiter en nous, ce Dieu infini, tout-puissant, trois fois saint, dans notre cœur, dans notre fragilité. Avons-nous toujours conscience de la portée de cet évangile? Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul nous dit que cet évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance. L'évangile non seulement fait naître la foi dans le cœur de celui qui la reçoit, mais il va aussi nourrir cette foi. Chaque fois que cet évangile nous encourage à placer notre confiance en Dieu. L'évangile de la grâce nous permet d'avancer, de grandir, de devenir des chrétiens adultes, bref, de devenir des disciples. Mais cet évangile, nous le portons surtout pour que d'autres puissent le découvrir à leur tour. Ce n'est pas pour un usage strictement personnel et égoïste. C'est un évangile que nous portons pour que justement, un peu comme, j'allais dire, ce vase fêlé, eh bien d'autres puissent recevoir de cette eau vive et que des graines puissent à nouveau germer autour de nous et porter du fruit pour la gloire de Dieu. C'est ce que Paul d'ailleurs nous dit un peu plus loin quand il cite cette parole du psaume 116 au verset 13. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Seulement pour transmettre cette puissance de l'évangile, Dieu a délibérément choisi la fragilité, l'humilité. Il a choisi des vases d'argile. Il aurait pu choisir des vases d'honneur, d'or ou d'argent. Il a choisi des vases d'argile, des personnes comme vous et moi, des personnes fragiles, vulnérables, limitées. Et on peut quand même se dire, mais Seigneur, pour le coup, on peut lui poser la question, est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie? Et pourtant, c'est sa stratégie. Et c'est précisément la stratégie que Paul enseigne tout au long de ce chapitre 4. Et il le fait de manière consciente. Face à l'autosuffisance de ses super apôtres, de ses détracteurs, qui placent leur confiance dans leur capacité, leur connaissance, leur miracle, etc., ou dans leur statut, lettre de recommandation, je suis quelqu'un de bien, eh bien Paul montre que Dieu a choisi de manifester sa gloire à partir de sa propre faiblesse. Alors à quoi est-ce que Paul fait allusion ici? À quel type de faiblesse fait-il allusion? En fait, quand Paul écrit ses lettres, il ne cache pas sa vulnérabilité ni ses limites. Il ne cherche pas à se montrer fort, on l'a vu hier, il ne cherche pas à porter un masque. C'est vrai dans chacune de ses lettres, mais c'est particulièrement le cas dans cette seconde épître aux Corinthiens où l'apôtre se veut être très personnel. Et dans ce chapitre, ce sont plutôt ces tribulations qu'il va mettre en avant comme témoignage, en quelque sorte, de sa faiblesse, juste après ce verset 7, donc dans les versets 8 et 9. Je ne pense pas les avoir mis, d'ailleurs, sur l'écran. Oui, dans les versets 8 et 9. « Ainsi, nous sommes accablés de toutes sortes de détresses, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. » Et s'il se plaît, on a l'impression en tout cas, à énumérer tout cela, toutes ces épreuves, c'est parce que justement, ça illustre la stratégie divine selon laquelle Dieu manifeste sa puissance dans notre faiblesse. En effet, chaque fois qu'une épreuve intervient dans sa vie, eh bien Dieu manifeste sa grâce avec puissance, de sorte que bien qu'il soit accablé par toutes sortes de détresses, pressé de toute manière, hein, suivant les versions, eh bien, Paul n'est jamais écrasé. Et il en va de même quand Paul est désemparé, persécuté, abattu. Il ne se sent ni désespéré, ni abandonné, ni perdu. En fait, c'est un peu comme si chacune de ces tribulations fortifiait un peu plus sa relation avec Dieu. Et n'est-ce pas au fond ce que vous et moi, nous expérimentons quand nous traversons des moments difficiles et que nous nous tournons vers le Seigneur, hein, pour placer en lui notre confiance? Quelqu'un a dit que la matière première de la foi, ce sont les épreuves. Parce que justement, les épreuves nous obligent à placer notre confiance en Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le psaume 23, qui est un psaume bien connu pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, hein, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, me conduit dans de verts pâturages, me dirige vers des eaux paisibles », eh bien, le moment où le psalmiste commence à tutoyer Dieu, c'est-à-dire à avoir cette relation personnelle avec Dieu, c'est pas quand il est dans les vastes, dans la prairie, dans les eaux claires, etc. C'est quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est dans ce moment de l'épreuve, dans la vallée de l'ombre de la mort, que le psalmiste fait l'expérience de la présence toute personnelle de Dieu. C'est dans la difficulté que Dieu se montre proche et personnel. Alors Paul renverse l'argument de ses détracteurs. Les reproches qu'on lui fait pour justifier qu'il ne peut pas être un vrai apôtre en raison de toutes ces galères, hein, si tu étais véritablement un apôtre que Dieu a choisi, bah, tu n'aurais pas tous ces problèmes sur ta route. C'est justement ce qui pour lui va authentifier son apostolat aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que ça correspond tout à fait à la stratégie divine. Une stratégie d'ailleurs que Paul avait déjà enseignée aux chrétiens de Corinthe dans sa première épître, au chapitre 1, verset 26, quand il leur avait dit que Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, pour confondre les fortes. Pas nouveau. Et cette stratégie d'ailleurs traverse toute la Bible. En fait, cette stratégie, il ne faut pas attendre de lire la deuxième épître aux Corinthiens pour la découvrir. Paul ne la tire pas de son chapeau en disant « voilà, je vous annonce quelque chose de nouveau ». Il faut toujours être un peu méfiant de ce qui est nouveau. J'avais un professeur en théologie qui me disait « L'originalité n'est pas forcément un gage d'authenticité. Hein. » On la retrouve tout au long de l'histoire biblique. Moïse a essayé de faire comprendre à Dieu « Seigneur, tu t'es trompé de personne. Hein. Si tu veux aller parler à Pharaon, choisis quelqu'un d'autre parce que moi, je suis bègue. En tout cas, j'ai un problème d'élocution. J'ai une fêlure qui fait que ça n'a pas marché. » En fait, il n'avait pas trop envie, on sait, de retourner en Égypte. Samuel était loin de penser que Dieu avait choisi David, le dernier de la famille, qu'il allait pourtant oindre pour devenir roi en Israël. Jérémie ne s'attendait pas non plus à ce que Dieu le choisisse. « Je suis trop jeune, t'as dû te tromper, c'est pas moi. » Personne ne s'attendait non plus à voir le Messie naître dans une étable et être salué par les bergers. Étonnant que Jésus lui-même ait choisi Pierre, simple pêcheur de poissons, pour devenir un pêcheur d'hommes. Et on pourrait sans doute ici bien rajouter bien d'autres exemples. Pourquoi une telle stratégie de la part de Dieu? Eh bien, la réponse vous est donnée au verset 7. « Afin que cette puissance, cette grande puissance, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu a choisi de manifester sa puissance » à partir de nos faibles moyens, pour qu'il soit bien clair aux yeux de tous que c'est Dieu qui agit, pas nous. Cette stratégie divine est un vrai encouragement pour annoncer l'Évangile. D'abord parce qu'elle nous rappelle que c'est Dieu qui agit dans les cœurs, pas nous. Ça nous enlève quand même un poids. C'est Dieu qui agit, c'est pas nous. La puissance, c'est pas nous. Parfois, on peut un peu confondre les choses. La puissance, c'est l'Évangile. C'est aussi un encouragement pour nous parce que, finalement, cette stratégie divine nous enseigne que ça n'est pas parce que nous sommes fragiles, limités, pas toujours à la hauteur, que Dieu ne nous utilise pas à son service. Le vase d'argile, c'était le vase ménager, celui qui faisait le service. Et il y a cette notion de service. Et ce n'est pas parce que nous sommes limités, fragiles, que Dieu ne va pas nous utiliser. J'aurais même tendance à dire, bien au contraire. Bien au contraire. Cette stratégie divine est intentionnelle pour confondre un monde obnubilé par la puissance, la force, l'apparence, comme l'était la société de Corinthe, comme l'est la société d'aujourd'hui, avec peut-être en prime aujourd'hui le rendement, la compétition, c'est même pire qu'à Corinthe. On est encore plus dans cette dimension-là. Et donc, cette stratégie divine qui prend à revers la stratégie humaine est d'autant plus importante à la fois à comprendre et à mettre en action. Au fond, cette stratégie divine s'inscrit dans l'abaissement de la croix, dans ce mouvement propre à la foi chrétienne où Dieu est venu lui-même en la personne de son Fils donner sa vie pour nous, mourir comme un malfaiteur à la croix. Et Paul y fait référence ici de manière assez insistante dans les versets 10 et 11. C'est un des passages où il parle le plus de manière récurrente de la mort et où il parle, comme il le fait rarement d'ailleurs, de Jésus. Souvent il parle du Christ. Ici c'est le mot Jésus, c'est-à-dire c'est le personnage historique qu'il va mettre en avant pour bien montrer cette réalité de la mort du Christ. Oui, nous portons toujours en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps, car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus. Il a fait mention précédemment de ces épreuves afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Ici, Paul met en avant cette dimension de la mort. Il souligne qu'en raison de ses propres souffrances qu'il vient de mentionner juste avant, eh bien, il se reconnaît bien, bien plus volontiers dans cette fragilité, dans la mort, que dans la résurrection du Christ, qui est pourtant bien présente dans ce passage par ailleurs. Par là, il dénonce une nouvelle fois ceux qui fondent leur ministère sur les manifestations de puissance sans accepter dans leur vie le brisement intérieur dont nous parle pourtant le message de la croix. Il se démarque aussi de ceux qui, à Corinthe, se croient déjà en pleine possession des biens à venir, ceux qui ne retiennent que la dimension triomphale du message de la résurrection, un peu comme on l'a vu hier, hein, en oubliant le chemin de dépouillement, le chemin d'abaissement, le chemin de la croix. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que aujourd'hui on retrouve cette tendance, ce faux évangile dans ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, qui prône la richesse, la santé, le succès pour ceux qui se confient en Dieu. Et dès lors, forcément, dès qu'on a des problèmes de santé, dès qu'on est pauvre ou qu'on connaît l'échec, ça paraît un peu suspect. Et on peut même aller vous voir en vous disant « mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie ». Alors c'est un message séduisant. C'est le message qui était en train de séduire, d'ailleurs, les chrétiens de Corinthe. Mais ça n'est pas le message de l'Évangile. Et ça ne correspond pas à l'expérience de l'apôtre Paul. Pour l'apôtre, la vie en Christ passe nécessairement par la mort, comme il le dit au verset 12, en référence aux persécutions qu'il a endurées au moment où il a annoncé l'Évangile. C'est sur ce chemin du dépouillement, de l'humilité, que l'apôtre a appris à dépendre davantage de la grâce de Dieu. Cette grâce ne l'a pas rendu plus fort, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Plus fort dans le sens plus performant, plus riche, moins vulnérable. Cette grâce l'a rendu plus dépendant de Dieu. C'est pas pareil. Passer outre le message de la croix du Christ, pour ne retenir que la dimension triomphale de la résurrection, comme le faisaient les Corinthiens, c'est tout simplement passer à côté du message de l'Évangile. Alors, comme ce pot fissuré de l'histoire du début, nous pouvons, nous aussi, nous sentir, et c'était souvent mon cas, nous sentir vidés, sans ressources, pas toujours à la hauteur. Et forcé de constater qu'il existe souvent un décalage, si on est honnête avec nous-mêmes, entre la gloire de l'Évangile, ce trésor, et ce que nous sommes, des vases d'argile, souvent fissurés. Au point que parfois, on peut se décourager et on peut se sentir inutile. On a l'impression de ne pas plaire à Dieu. On a l'impression de... Voilà, on n'est pas à la hauteur et... Voilà, je... Je n'ai rien pour faire pour le Seigneur. Mais le message que Paul cherche à nous faire passer ici, c'est justement de nous dire que nul besoin d'impressionner les autres pour convaincre de croire en Dieu. C'est vrai que ça peut séduire au départ d'impressionner, mais ça crée aussi la distance. Si j'impressionne quelqu'un, la personne en face va peut-être être séduite au départ, mais j'aurai du mal à avoir une relation personnelle. Et puis surtout, au bout d'un moment, ça sonne faux. Parce que ça n'est pas vraiment moi. C'est le masque que je porte. Dieu n'a pas besoin de représentants commerciaux qui affichent toujours un grand sourire et font comme si tout allait toujours très bien. Parfois, on pense, si je vais annoncer l'évangile sur le campus, il faut... Tout va bien avant. Le Seigneur a ressuscité. C'est pas faux, mais c'est pas forcément ce que Dieu attend de nous en premier. Nous pouvons être nous-mêmes, tels que nous sommes. Car nous n'avons pas besoin d'être plus forts pour que Dieu nous utilise, mais nous avons besoin d'être plus dépendants de lui. Et de ce point de vue-là, comme dans les autres domaines, Dieu ne change pas. Et sa stratégie ne change pas non plus. Comme hier, Dieu veut manifester sa puissance à travers notre faiblesse, pour qu'il soit bien clair aux yeux de tous que c'est lui qui agit et pas nous. Et je crois vous l'avoir mis dans le livret, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui de ce que je vais dire, c'est cette phrase. Dieu n'attend pas que nous soyons forts pour nous utiliser à son service, mais dépendants de lui. Dieu n'attend pas que nous soyons forts pour nous utiliser à son service, contrairement peut-être à ce que nous pourrions croire. Mais il attend que nous soyons dépendants de lui. Du coup, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que je peux me concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, ça n'est pas nous. L'essentiel, c'est le Christ. Ça n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, nous dit Paul au début de ce chapitre 4. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Évangéliser, hein, partager l'Évangile, c'est parler du Christ et pas de nous. Alors, ça m'arrivait d'entendre, pas dans les GPU, mais ça m'arrivait d'entendre, peut-être vous aussi, des témoignages où la personne, voulant montrer ce que Dieu avait fait dans sa vie, avait surtout parlé d'elle-même. Puis au bout de ce long témoignage fleuve, à la fin, on se demandait, mais est-ce que vraiment Jésus est quelque part là-dedans? Il fallait le chercher, hein, il fallait vraiment bien chercher. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande, et en tout cas, ce n'est pas ce que Paul veut faire ici. Il ne veut pas se mettre en avant, comme le faisaient les faux docteurs, et comme nous avons, nous, tendance à le faire, en montrant voilà, tout ce qu'on sait faire grâce à Dieu. Non, c'est le Christ que nous voulons mettre en avant. Pas besoin non plus de chercher à des artifices ou d'être, au fait des dernières techniques à la mode pour transmettre l'Évangile. Il y a parfois des envies comme ça de se dire, voilà, alors c'est bien de voir ce qui se passe, hein, et d'être à la mode et de prendre les moyens de communication d'aujourd'hui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce n'est pas la peine, je dirais, d'user de tous ces artifices humains. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes, nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète ici, hein, du temps de Paul, il y avait des orateurs, les sophistes, et ces orateurs comptaient sur leur capacité rhétorique pour convaincre et pour remporter plus de succès. Et ça avait véritablement, c'était un courant qui était fort, et c'était un peu comme les one-man shows, hein, on était là, on écoutait. Souvent, dans le fond, il n'y avait pas grand-chose, mais dans la forme, c'était épatant. Ça ne faisait peut-être pas avancer le public, mais voilà, c'était impressionnant, et ça captait l'attention. Mais Paul, lui, a choisi un autre chemin, non pas, je pense, parce qu'il était incompétent, mais en raison de cette stratégie divine. Et il le dit d'ailleurs, dès la première fois qu'il écrit aux chrétiens de Corinthe, oui, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence et la sagesse humaine. Et ici, il ne fait pas référence, je dirais, à la philosophie qu'il connaissait bien, mais justement à cette dimension technique, hein, de la rhétorique qui finalement sonnait creux. « Car je n'ai pas estimé devoir apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Autrement dit, ce qu'il cherche à dire ici, il n'a pas voulu utiliser tous ces artifices de son temps pour se montrer fort et pour en mettre plein la vue. Parce que ça aurait occulté le cœur même de l'Évangile. Et le cœur de l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Donc si nous ne nous sentons pas toujours à la hauteur, pas besoin, je dirais, d'être un super connaisseur de toutes ces techniques. Et quand on fait de l'apologétique, justement, la première chose qu'on nous dit, c'est d'être nous-mêmes, d'avoir du tact, et c'est ce que Paul dit, hein, l'apôtre Pierre, du moins dans sa première épître, hein, d'avoir du tact, de faire connaître l'Évangile avec tact et sagesse. Dieu n'a pas besoin de nos performances ni de nos techniques humaines pour que son évangile soit annoncé. Ce que Dieu recherche, aujourd'hui comme hier, c'est un cœur intègre, une foi authentique, qui lui fasse confiance, qui compte sur lui pour faire connaître simplement la vérité de l'évangile. Et comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Voilà, c'est tout simple. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Si nous avons reçu cet évangile en nous, nous n'avons qu'une envie, c'est de le transmettre pour que d'autres puissent le découvrir. Et finalement, je crois qu'on a aussi le même objectif que l'apôtre Paul avait, en tout cas quand je dis nous, c'est au GBU. Et au verset 15, l'apôtre Paul dit ceci. Son objectif était que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre de prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Et si on essaie de reformuler cette phrase en recadrant un peu notre vision des GBU, on pourrait dire que notre objectif c'est que la grâce abonde en atteignant des étudiants toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre de prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. C'est le même objectif. Et c'est à chacun de nous, je dirais, de pouvoir essayer d'atteindre cet objectif. Alors ne perdons pas courage. Comme Paul nous le dit au verset 1 et 16, ne perdons pas courage. Même s'il existe un décalage entre la gloire de l'Évangile et nous, qui sommes parfois timides, vulnérables, pas toujours à la hauteur, nous pouvons être pleins de courage parce que nous savons que ce courage ne vient pas de nous-mêmes, de nos capacités, et Paul le dit clairement au verset 7, mais ce courage vient de la relation que nous entretenons avec Dieu. C'est là qu'est notre force, ne l'oublions jamais. C'est là qu'est notre courage, dans cette relation personnelle que nous entretenons avec Dieu. Pour Dieu, l'important, ce n'est pas notre apparence extérieure, nos performances, nos capacités, comme le pensait le vase étanche qui était fier de lui-même, de cette histoire du début. Non, l'important, c'est qui nous sommes. Qui nous sommes devant lui. C'est notre identité en Christ. C'est ce moi intérieur qui vivra au-delà de la mort, grâce au salut en Jésus-Christ. C'est ce que Paul nous dit dans les versets 16 16 à 18, et notamment au verset 16, quand il dit « Même si l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est ce qui compte. N'oublions pas que, et je le redis, Dieu n'attend pas que nous soyons plus forts pour nous utiliser. Il attend que nous soyons plus dépendants de lui. Il peut se servir des épreuves que nous traversons pour nous permettre non seulement de grandir en lui, mais aussi de répandre, de partager l'espérance qui nous anime. Encore faut-il pour cela exercer le regard de la foi comme Paul nous y invite dans ses versets 16 à 18. Ce regard ne s'arrête pas à ce qui se voit et qui est souvent éphémère. Il va plus loin. Il regarde à ce qui ne se voit pas, à ce qui est éternel. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas, car ce qui se voit est éphémère et ce qui ne se voit pas est éternel. Et pour nous aider à comprendre ce message, l'apôtre Paul utilise l'image de la balance avec les deux plateaux. Depuis, ça a changé l'histoire de balance, mais à l'époque, c'était avec les deux plateaux. Sur un plateau, il met ses afflictions présentes, et on sait qu'elles sont nombreuses. Il a failli perdre la vie. Il mentionne ici, dans ce chapitre, un certain nombre de ses tribulations. On pourrait penser, et sans doute que c'était le cas, si on se met à sa place, que ça pesait une tonne. Si on avait dû, nous, et si on devait, nous, vivre le dixième de ce que Paul a vécu, on serait peut-être littéralement laminé, quelque chose que nul homme n'aurait pu supporter. Surtout quand on lit d'ailleurs, et peut-être qu'on aura le temps de le faire, au chapitre 11, les versets 24 à 29, où l'apôtre revient en détail aussi sur ces problèmes qu'il a rencontrés. Et pourtant, pour Paul, et c'est là un exemple qu'il veut montrer au travers de sa vie, il dit, ben non, elles sont légères, car sur l'autre plateau de la balance, Paul a mis un poids éternel de gloire, ce moment où nous serons avec Dieu dans l'éternité. Et ce poids éternel de gloire l'aide dès aujourd'hui à vivre la vie de tous les jours dans le quotidien. Et si vous avez le temps de lire ou de méditer ce chapitre 5, donc qui suit et sur lequel je ne vais pas trop m'arrêter, eh bien justement, l'apôtre Paul va parler de cette espérance, et surtout de la persévérance dans l'espérance, en répondant aux questions que les premiers chrétiens commençaient à se poser. Oui, mais le Seigneur n'est pas arrivé, alors comment vivre cette espérance aujourd'hui? Eh bien justement, c'est en exerçant ce regard de la foi. Dans la Bible, la séparation n'est pas entre le sacré et le profane, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La séparation est entre le visible et l'invisible. Et la foi, c'est ce moyen que Dieu nous donne pour regarder l'invisible. Et ce n'est pas facile, surtout dans la société dans laquelle nous sommes, qui est une société de l'image, qui est une société de l'apparence, qui est une société où ce qui compte, c'est ce qui se voit, beaucoup plus encore qu'à Corinthe, que d'exercer ce regard de la foi qui consiste à puiser notre force dans ce qui ne se voit pas, dans les promesses de Dieu. Seigneur, je traverse quelque chose de difficile, j'ai l'impression de ne pas y arriver, je ne suis vraiment pas à la hauteur, dans ma vie il y a des choses qui font que tu ne peux pas te servir de moi, et pourtant ta parole me dit que, et je m'appuie sur ce que ta parole me dit, parce que je crois en cette promesse que tu me fais. Pas visible à l'œil nu, mais je peux m'en saisir par la foi. Dès lors, nous ne perdons pas courage, car nous affrontons les difficultés avec cette nouvelle perspective de la gloire à venir. Alors, au lieu de regarder à nos limites, à nos insuffisances, aux difficultés qui se dressent sur notre chemin, et nul doute qu'il y en aura, et peut-être que déjà, maintenant, certains se disent, en regardant les mois qui viennent, voilà, il y a ça, puis il va y avoir ça. Puis, on s'arrête un peu à tous ces nuages, mais regardons plus loin. Regardons à la puissance de l'Évangile, regardons à l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, et même si l'image est un peu usée, regardons au soleil qui, même s'il ne se voit pas, continue à briller, parce que Dieu est là et nous pouvons compter sur sa grâce. Amen.
annonces. J'ai trois annonces. Donc, on va partir en balade, en mini-rando ou en grosse balade d'ici peu. Je crois que tout le monde n'a pas eu encore les éléments de son pique-nique, le pique-nique en kit. Donc, si vous n'avez pas eu les éléments de votre pique-nique, vous descendez en bas et vous prenez, il y a pain, il y a des choses à mettre dans le pain, il y a un couteau en plastique, n'oubliez pas, parce que le but, c'est pas de faire vos sandwichs ici, c'est de le faire une fois arrivé là-haut. Il y a des chips, il y a de l'eau, enfin voilà. Prenez un sac et puis dans ce sac vous mettrez évidemment votre pique-nique, vous mettrez cheveux, crème solaire, casquette, enfin tout ce dont vous avez besoin, votre Bible, et puis si vous animez la DAB aujourd'hui sur Psaume, vous prenez bien vos notes. Ça va ça?
Ok. Deux pâtés et deux
paquets de gâteaux. Ah super, merci Florine. Deuxième annonce, la fin du camp. C'est presque après-demain. En tout cas, la dernière soirée, c'est après-demain. Et la tradition d'A Fond La Forme, mais comme c'est une tradition qui est cool, on la perpétue, c'est d'avoir une dernière soirée où ce sera un peu la scène qui est pour vous. Donc, ce sont un chant, des sketchs, un mini témoignage, enfin voilà. Donc on va vous demander de vous organiser pour réfléchir, faire preuve de créativité. Et ceci est une annonce pour les A3, je vais vous demander de vous lever. Ce sont les A3 qui vont coordonner cette soirée. Ils apprennent plus ou moins en même temps. Donc voilà, les A3, je vais vous demander de vous organiser pour coordonner la soirée. À partir de maintenant, les annonces, ce sera à vous de les faire. Voilà, donc juste une mini-annonce de votre part, même si vous la prenez en même temps. Si vous voulez faire quelque chose, vous venez voir les A3 qui vont réguler, préparer l'ordre de passage. Et les A3, ceci est une annonce pour vous, je suis votre référent. Donc si jamais vous avez un problème ou une question, ou besoin de matériel, même s'il n'y en a pas énormément, ben, venez me voir et puis on verra ce qu'on peut faire pour vous. Enfin, dernière annonce. Voilà, il y a des ours blancs qui ont besoin de vous. Et pourquoi? Parce qu'on a constaté que les lumières étaient constamment allumées. Voilà, et notamment au milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui s'est levé au milieu de la nuit, qui a vu toutes les lumières allumées. Et c'est pas cool pour les pertes d'énergie, c'est pas cool pour les ours blancs. Donc on veut vraiment vous demander, quand vous quittez une pièce, d'éteindre la lumière. Et si vous savez pas où sont les interrupteurs, vous les cherchez. En général, ils sont près des portes. Donc on vous demande vraiment de faire un effort et d'éteindre la lumière lorsque vous quittez une pièce. Voilà, rendez-vous dans la cour d'ici un quart d'heure, quand vous aurez fini votre sac, vous serez changé, etc., pour le départ.
J'ai trouvé un stylo dans l'air, je ne sais pas qui c'est. Ah, en bas.
Ah ouais, alors que ça...